veux faire quelque chose un peu...
désordonné, à mon avis. Surtout que j'essaye de tenir compte de ce que Antoinette a dit au préalable, et que ça se veut quelque chose qui est à mi-chemin entre l'introduction générale au séminaire, la conclusion générale au séminaire, enfin voilà, ça ira un peu dans tous les sens, je le crains, et ce sera nourri plus par des intuitions que par des démonstrations. Mais en gros, ce que je voulais mettre en avant, c'était essentiellement le fait que je n'étais pas satisfait par les définitions canoniques qui ont été proposées à plusieurs reprises de l'efficacité, de l'efficience lors du séminaire. Et c'est quoi la définition canonique de l'efficacité? C'est que l'efficacité, c'est la propriété de ce qui atteint son but. Et l'efficience, c'est plus ou moins la même chose, c'est la propriété de ce qui atteint son but au moindre coût, avec un minimum de moyens, etc. Là, on peut un peu enrichir, compliquer la définition. Mais enfin, en gros, voilà, on a tout dit à propos de l'efficacité avec ce type de définition-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit grand-chose de neuf. On reste dans un cadre que j'appellerais globalement conséquentialiste, peut-être même utilitariste, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais que tout cela ne me semble pas correspondre, cette définition ne me semble pas être la définition juste qui nous permet de comprendre la réalité d'une pratique de gouvernement entièrement soumise à l'efficacité, telle qu'elle a été plutôt décrite maintenant par Antoinette Rouvroy, et qui me semble se développer dans un cadre beaucoup plus unidimensionnel, immanent, et ne pas permettre dès lors de s'exprimer en termes de but, de résultat. En gros, paradoxalement, j'ai l'impression que la définition qu'on donne de l'efficacité est tellement liée à la définition d'un but qu'elle ne permet pas de prendre acte de ce qu'est un gouvernement par l'efficacité. Alors, dans quoi cette définition canonique, je vais d'abord parler de la définition canonique, reste-t-elle coincée? Il me semble qu'elle reste globalement prise dans un cadre téléologique, qui n'a rien, évidemment, de novateur, puisqu'il s'agit d'une pensée, si on suit cette définition, il s'agit d'une pensée organisée en fonction des fins, et qui suppose donc une définition possible de ces fins, auxquelles on soumettrait l'action, qui nous permettrait de peser les moyens pour atteindre cette fin, etc., etc., etc. Ou encore, s'il faut parler de manière un peu plus restreinte, un peu plus humble que ce cadre téléologique, ce serait l'idée d'un cadre conséquentialiste. On va juger les actions depuis leurs résultats. Ce serait ça le cadre général des définitions canoniques, pas du tout de ce qui vaudrait, me semble-t-il, pour ce qui a été décrit précédemment par Antoinette. Alors, quel était... quel était le sens et la force de cette définition de l'efficacité telle qu'elle s'inscrit dans un cadre conséquentialiste, c'est-à-dire en ce qu'elle nous permet de juger des actions depuis leurs conséquences, depuis leurs résultats, c'est le fait de s'opposer aux grandes traditions morales qui ont organisé précédemment l'histoire de la pensée morale, à savoir la perspective de la morale de la vertu ou de l'excellence, qui va réfléchir sur les motivations de l'agent, et d'autre part la perspective déontologique, qu'on appelle kantienne de temps en temps aussi, qui suppose donc qu'on définit des règles et qu'on va penser l'obligation de respect de ces règles. Et ce cadre conséquentialiste, donc qui pèse nos actions en fonction de leurs conséquences, fut... réellement émancipateur, dès lors qu'il a tenté d'écarter la question du motif de l'action pour se concentrer sur le rapport de l'action à son résultat. Émancipateur, parce que justement, dès lors qu'on lie l'action à son résultat, on s'ouvre la possibilité de lier l'action au bien commun, c'est un des résultats possibles. Donc il y a eu véritablement, dans l'histoire de la pensée, avec l'apparition globalement, de l'utilitarisme, ou un peu avant, avec Hume, etc., il y a eu cette tentative, me semble-t-il, radicale de vouloir s'éloigner de la question de la motivation de l'action. Et c'est sur cette base-là, me semble-t-il, que toute la réflexion sur l'utilité sociale a pu naître. Or, les définitions canoniques dont je suis parlé me semblent encore rester trop coincées dans un tel cadre. Alors, tout ça pour dire qu'en tout cas, une telle définition de l'efficacité, avec cette définition que je vous ai donnée dans un premier temps, coincé dans ce cadre, sinon téléologique, du moins conséquentialiste tel que je l'ai décrit, et tel qu'il s'est déployé essentiellement dans la tradition utilitariste ou dans la perspective de l'économie, de l'économie politique, n'est absolument pas neuf, et n'est pas du tout original, et ne me semble en rien dessiner quelque chose qui serait... en accord avec le retour de cette question de l'efficacité dans l'arène politique, enfin ce retour constant de l'efficacité dans l'arène politique de nos jours. Alors il faut noter, avant de mettre définitivement de côté cette première définition de l'efficacité, que son intérêt, malgré tout, j'ai déjà parlé d'intérêt, j'ai déjà parlé du fait qu'elle ouvrait sur une réflexion sur le bien commun, hein, que l'utilitarisme ouvrait nécessairement sur un questionnement du bien commun, il me semble que cette définition, effectivement, avait le grand avantage d'ouvrir réellement sur une possibilité éthique, au-delà de la seule recherche purement égoïste de l'intérêt personnel. Elle ouvrait sur une possibilité éthique dans la mesure où elle laissait entendre qu'il était possible de mettre en rapport, éventuellement de manière chiffrée, de manière mathématique, des moyens, des fins, des actions et des conséquences, etc. Alors, plutôt... que de rester dans un tel cadre en tentant de le mettre en défaut, ce qui n'est pas compliqué, hein, il y a une multiplicité de critiques possibles au sujet de l'utilitarisme, qui sont les unes justifiées, les autres injustifiées, qui obéissent à des tas de points de vue différents. On peut trouver ça insatisfaisant en termes anthropologiques, en montrant que les relations humaines supposent des relations de dons, des relations de sacrifice, etc. On peut le critiquer un peu à la manière déontologique ou de manière kantienne, en disant qu'une telle vision du monde ne permet pas de protéger les faibles, les minorités, les exclus, etc. Et pour ça, on a véritablement besoin de règles et pas d'un simple questionnement sur les conséquences, etc. Alors, on peut montrer dans quelle mesure ça ne permet pas de prendre en compte de manière profonde les biens communs, hein, qui seront toujours, c'est ça l'idée de la tragédie des communs à laquelle répond notre beau nouveau prix Nobel de l'économie. En montrant justement qu'on ne peut pas supposer cette espèce de rencontre automatique entre l'intérêt privé, l'intérêt commun, etc., etc. Donc tout ça sont des critiques internes en quelque sorte à cette définition de l'efficacité de laquelle je suis parti. Ce que je voudrais plutôt faire, donc ce n'est pas mettre en défaut une telle perspective économique et utilitariste, mais c'est plutôt aller un pas au-delà pour voir... l'idée que l'efficacité est la norme s'inscrit encore dans une telle perspective. Et il me semble, et c'est là que j'en arrive déjà, vous voyez que je vais assez vite, à une phase relativement intuitive dans mon exposé, c'est là que j'en arrive à un paradoxe, puisque le paradoxe face auquel je me trouve, c'est l'idée que la norme de l'efficacité, l'idée que l'efficacité est la norme centrale, signifierait qu'on n'est plus, me semble-t-il, c'est vraiment une proposition, mais il me semble que c'est un peu ce qui a été décrit précédemment par Antoinette, qu'on n'est plus dans une pensée du résultat, avec ces possibilités éthiques qu'une pensée du résultat offrait. Et donc on n'est plus dans une possibilité, on est dans une pensée qui ne nous offre éventuellement pas de possibilités éthiques. On est peut-être dans un moralisme, parce qu'on est peut-être dans une pensée ou dans une pratique politique qui relève purement de l'injonction constante. Mais on n'est plus face à une possibilité de peser de l'intérêt commun, etc. Alors, en quoi consiste cette pensée de l'efficacité ou cette norme absolue de l'efficacité qui nous éloignerait d'une pensée du résultat? Comment est-ce que je peux la décrire un tout petit peu plus en avant? En ce sens que nous nous trouverions face à ce que j'appelle un autofinalisme de la norme, c'est-à-dire une norme qui cherche elle-même à se vérifier, et que dans ce cadre, l'efficacité, le caractère central de l'efficacité signifie que la norme finit par se viser elle-même. C'est-à-dire que la norme efficace n'est justement pas une norme qui atteint son résultat, comme si celui-ci lui était encore extérieur, mais devient une norme qui réussit. C'est-à-dire que c'est le processus normatif lui-même qui doit réussir, en nous amenant à ces situations potentiellement pathologiques qu'on a vécues tout à l'heure avec Antoinette qui nous dit « mais ça marche pas, etc. Si je ris, il croit que je pleure, etc. » C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien qu'on peut se trouver face à ce genre de situation-là, peut-être. Donc voilà, cet autofinalisme de la norme, je le définis par l'idée que ce qui doit être visé, c'est la vérification de la norme elle-même, en quelque sorte. C'est le processus normatif lui-même qui doit réussir. Et on est ainsi précisément à l'opposé de l'idée qu'on peut constater qu'une réalité extérieure est atteinte de manière optimale et peut-être reportée à un projet ou au déploiement minimal d'une série de moyens, etc. Toute cette pesée entre les moyens, les buts qui ont lieu si on se reporte à la définition canonique de l'efficacité dont je suis parti. Donc on serait en quelque sorte en train d'abandonner, pour comprendre l'efficacité, pour comprendre l'efficacité devenue norme, on serait tenu d'abandonner le conséquentialisme qui structurait précédemment la pensée de l'efficacité. Et, bon, je suis face à des propositions évidemment un peu générales, hein, cette idée... que l'efficacité désigne une norme qui se vise elle-même. Alors je vais essayer de leur donner un petit peu plus de structure, je ne pourrais pas aller très loin, mais je vais quand même essayer. D'abord, et toujours à un niveau tout à fait intuitif, j'ai l'impression que ce qu'il s'agit de penser ainsi, c'est quelque chose qui nous situe, et ça a été mentionné par Antoinette aussi, je m'en rends compte maintenant, qui nous situe véritablement entre deux modèles, le modèle du système naturel et celui du système, modèle du système naturel, c'est disons un système digestif ou un estomac, quelque chose comme ça, et celui du système artificiel, tel qu'il est construit par des règles, par des conventions, tel qu'il suppose des accords, des projets, etc. Il me semble que donc pour comprendre cette forme de normativité qui se veut elle-même, que je suis en train de définir, on est obligé de se situer précisément entre les deux, dans le sens qu'aucune de ces deux définitions, qu'aucun de ces deux champs, le champ naturel et le champ artificiel, ne convient parfaitement. Hein. Le champ naturel ne convient pas parce qu'a priori il n'est pas normatif. La réussite d'un tel système ne dépend pas de l'homme. Hein. Le deuxième ne convient pas tout à fait parce que l'efficacité, dans ce cadre-là, sera toujours secondaire. Elle sera toujours soumise à un questionnement sur la validité, sur la justice, sur la légitimité, sur le consensus, etc. Alors voilà, première intuition, on doit se situer entre un système naturel et un système artificiel, où on doit situer un mi-chemin entre ces deux modèles. Alors ensuite, je me suis demandé qu'est-ce que, à regarder les livres que j'aime bien lire, parcourir l'histoire ou à parcourir les normes plus classiques, disons, que celles qui sont abordées qui ont été abordées précédemment par Antoinette, où est-ce que je trouve une norme parfaitement efficace? Là, je renvoie un livre précis que j'ai lu récemment, qui m'a bien marqué d'ailleurs. Savoir un des derniers ouvrages, parce qu'il en écrit beaucoup et beaucoup à la fois, semble-t-il, d'Agamben, qui porte sur le serment, donc le sacrement du langage, et puis alors serment dans le sous-titre, j'ai oublié. Et Agamben, dans ce texte-là, pense le serment comme norme, il n'emploie pas le mot, mais enfin comme norme véritablement originaire, qui nous situe en deçà du religieux et en deçà du juridique. Alors en quoi consiste le serment ? Le serment consiste à affirmer que ce que je dis est vrai. C'est pour ça que c'est le sacrement du langage. Un serment consiste, et c'est assez vrai, j'ai essayé de me poser la question, ça consiste plus ou moins toujours à affirmer que mes mots correspondent à la réalité, que mes mots correspondent à ce qu'ils veulent dire. Donc le serment, sur quoi porte en termes normatifs le serment ? Il porte très précisément sur la rencontre entre les mots et les choses. Pas au sens de Foucault spécialement. Il s'agit par le serment de garantir le rapport entre les mots et les choses. Et pourquoi est-ce fondamental? Pourquoi s'agit-il et est-ce traité à ce titre-là, d'ailleurs par Agamben, dans la mesure où ce qui est assis ainsi, c'est véritablement la confiance entre les hommes. Le serment, c'est ce qui garantit le langage, ni plus ni moins, et qui permet tout simplement la communication. Il permet cette confiance primordiale à laquelle on peut renoncer sans renoncer à toute possibilité de jugement, sans renoncer à toute possibilité d'entente, etc. Et donc le serment désigne une assurance qui, et Agamben se réfère ici à Wittgenstein, qui nous situe entre une sorte de savoir absolu et une croyance absolue. Agamben cite ce passage de Wittgenstein où Wittgenstein dit « Est-ce que je sais que je m'appelle Ludwig Wittgenstein ou est-ce que je le crois ?» pour nous mettre bel et bien face à ce moment qui ne relève pas d'une certitude logique, certainement pas, qui ne relève pas non plus d'une certitude empirique ou constative, qui n'est pas portée par des hypothèses, qui n'est pas portée par des modèles, mais qui est quelque chose comme une règle de jeu, pour le dire comme Wittgenstein, comme une foi, comme un engagement. Alors pourquoi est-ce que je fais le détour par ce serment, hein, avec son caractère absolument originaire, parce qu'il se situerait à la croisée de l'ordre des mots et de l'ordre des choses, dans la mesure où c'est très précisément là qu'il me semble, hein, je suis toujours au niveau d'une série de propositions, que c'est très précisément là que je me trouve face à une efficacité absolue. C'est-à-dire que l'efficacité me semble être, je vais amener quelques éléments à cette affirmation, évidemment, me semble être précisément le propre de ce type d'acte normatif. Et que donc, je peux me demander en quoi est-ce le propre de ce type d'acte normatif. Alors, pourquoi le serment est-il précisément ce qui doit être pensé comme efficace ? Dans la mesure où il est inhérent à l'efficacité ou à la réussite, disons, de ce qu'il garantit, à savoir le langage. C'est-à-dire que le langage n'est pas et ne peut pas être pensé comme le résultat du serment. Je vous promets que ce que je vais dire comporte la concordance, respecte la concordance entre les mots et les choses, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'immédiat. Parler, c'est jurer, comme le dit Agamben. Et d'ailleurs, dès qu'on perd confiance, dès qu'on n'est plus dans le serment, on ne se comprend plus. Ce n'est pas si on perd confiance qu'on ne croit plus ce que l'autre dit, c'est qu'on ne se comprend carrément plus. Donc tout s'écroule d'un coup. Donc il y a véritablement une immanence, et c'est ça que je veux pointer, qui me semble être un élément intéressant pour penser l'efficacité, une immanence de la norme à son résultat, ou du résultat à la norme. Alors, deuxième élément qu'on peut deviner aussi à la lecture d'Agamben, qui n'est pas toujours tout à fait clair, mais enfin, c'est un des livres où il est quand même le plus clair. Le serment ne peut être compris comme un serment que dans la mesure où on se rend compte qu'il est doué, dès lors, d'une puissance intrinsèque, d'une force qui lui est propre. Alors ici, Agamben renvoie... Enfin, cite quelques passages du De Officiis de Cicéron, qui porte très très fort sur ces questions de serment, hein, et qui me semble être un bon point de départ que je vous soumets, lui aussi, pour penser ce qu'est l'efficacité. Alors, Cicéron dit que, je le lis en français, en traduction un peu revue, « mais dans le serment, ou mais dans un serment, il ne faut pas comprendre ce qui est à craindre, mais quelle est sa force. » Alors, quel est l'intérêt de ce passage-ci ? Et dans quel cadre ça se situe ? Dans le cadre d'un questionnement où Cicéron veut montrer que le serment, qu'on ne comprend pas le serment, hein, il faut comprendre le serment, c'est debet intellegi. Si on veut comprendre le serment, on ne peut jamais se reporter à une force qui serait derrière le serment. Et la suite du texte que je vous épargne porte sur les dieux. On croit toujours que si un serment doit être respecté ou si un serment a une quelconque force, c'est dans la mesure où il y a des dieux qui sont derrière, et je dois dire que c'était aussi ce que j'avais comme idée jusqu'à pas longtemps, c'est dans la mesure où on craint la punition des dieux, quelque part. Donc ce qui assure le serment, spontanément, ce qu'on croit, et ce que critique Cicéron, et ce que reprend Agamben, et ce que je reprends d'Agamben, c'est l'idée que le serment ne serait assuré, que la force du serment ne serait assurée que par les dieux qui se trouvent derrière lui. Alors, ce n'est pas ainsi qu'on doit comprendre le serment, nous dit Cicéron, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est sa force propre. quae vis sit. Alors voilà, il me semble qu'avec ce double, ces deux éléments, je me trouve, j'avance un petit peu dans la question de savoir ce qu'est l'efficacité. L'efficacité, c'est ce qui permet de penser des processus normatifs qui sont dépourvus d'extériorité tant en amont qu'en aval. C'est-à-dire, comme je l'ai dit d'abord, il n'y a pas de résultat hors de la norme. Le langage, si le serment est efficace, c'est dans la mesure justement où la réussite du langage ne doit pas être considérée comme quelque chose qui est garanti à l'extérieur. Et d'autre part, il n'y a pas de garantie ou pas de sanction antérieure via un dieu. Ce n'est pas la crainte d'un dieu qui fait qu'on respecte le serment et qui fait qu'on parle correctement, par exemple. Tout ça est immédiat. Donc, voilà, pour avancer un peu sur cette question de l'efficacité, je voulais la rendre, dans un premier temps, beaucoup plus immédiate, en supprimant l'idée qu'elle pourrait avoir, qu'elle doit être pensée en fonction de ses garanties, d'une part, et d'autre part, en fonction de ses résultats, comme si l'un et l'autre pouvaient être extérieurs. Il me semble que c'est sur cette base-là qu'on peut penser les choses les plus efficaces qui nous entourent, le langage, ça m'a l'air d'être fondamentalement efficace. C'est ça que j'ai voulu prendre comme exemple un peu criant, comme ça. Le langage, l'amour, l'argent, ça m'a l'air d'être ce qui doit être pensé dans son efficacité. Et qui nous éloigne fondamentalement de ces définitions de l'efficacité, de ces définitions canoniques de l'efficacité dont je suis parti. Alors, une autre source, mais que je ne vais pas développer très longtemps, et que je ne serai pas à même de développer très longtemps, c'est qu'il me semble que cette efficacité propre au terme efficace relève dès lors plus, c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu dans certains textes du dernier livre de Macheret, relève beaucoup plus d'une logique de la puissance que d'une logique du pouvoir, puisque ce qui est désigné ainsi, c'est une... Dans cette logique de la puissance, c'est une dynamique immanente, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans laquelle les causes et les effets sont simultanés, sont identiques l'un à l'autre. La force, c'est l'effet lui-même. Là où, au contraire, la logique du pouvoir présuppose toujours une transcendance, un fondement, la force d'une garantie qui la précéderait, qui serait éventuellement pourvu d'une sanction, hein, Dieu comme fondement et Dieu qui sanctionne, si on ne respecte pas nos promesses, hein, la loi et la police, etc., qui vont nous poursuivre. Tout un fondement qui est fondamentalement, dans le cas du pouvoir, indépendant de ce sur quoi le pouvoir agit. Et dans le cadre, si on reste dans le cadre du pouvoir, questionner l'efficacité consistera toujours seulement à reporter des résultats au fondement, hein, un peu selon la définition canonique dont je suis parti, en pondérant ce rapport par les moyens engagés, etc. Bref, l'efficacité, et là, je ne refais pas le détour par ce qui a été exposé par Julien lors de l'introduction, enfin, il me semble que c'est un seul et même modèle qui reste, hein, le modèle du pouvoir et l'idée du modèle, hein. François Julien laissait entendre que la conception occidentale, pour aller très vite, de l'efficacité était un peu grossière, manquait de finesse par rapport à la conception chinoise, pour le dire très vite, c'était dans la mesure où justement l'efficacité, dans ce cadre-là, semblait toujours rester secondaire en ce qu'elle était soumise à l'évaluation même du modèle, l'évaluation même de l'idéal, etc. Bon, j'en ai fini avec les intuitions. Je vais maintenant, donc je fais des grands sauts qui font que ce n'est pas que le tout est un peu impressionniste. Hein. Je vais maintenant essayer de décrire quelques facettes qui rebondiront pour une bonne part sur ce qui a été dit par Antoinette précédemment. Quelques facettes de ce qu'est dès lors un gouvernement qui a fait de l'efficacité sa norme, dans la mesure où celui-ci signifierait, comme je viens de l'annoncer, que l'efficacité est dès lors devenue celle de la norme elle-même, celle de la puissance normative elle-même, une sorte d'autoréférence de l'efficacité. Alors, pour faire tenir cela, et ça, évidemment, ça renvoie directement à mes travaux sur, sur l'histoire de la statistique, que je ne vais pas développer ici, puisque je devrais les développer une autre occasion. Il me semble que ça suppose qu'on renverse le sens de ce qu'est gouverner, et qu'on peut, mais c'est très caricatural, hein, je ne le cache pas, distinguer deux grandes manières de penser le gouvernement. Un mode transitif, qui est le mode auquel on est habitué, ou directement transitif, disons, qui est le mode auquel on est habitué, le mode via lequel on pense spontanément l'activité de gouverner, qui consiste à gouverner, à penser que gouverner, c'est gouverner le réel, c'est agir directement sur le réel. Donc, premier modèle, gouverner, c'est gouverner le réel. Là où le propre de ce gouvernement algorithmique qui a fait de l'efficacité son cœur, tel que décrit par, par Antoinette précédemment, et au point que l'efficacité soit toujours celle de la norme elle-même, c'est-à-dire qu'on se trouve face à une situation d'autoréférentialité de la norme, réclamerait, pour être pensé, d'être considéré non plus comme un gouvernement du réel. Et le gouvernement du réel, c'est le gouvernement de la loi, c'est le gouvernement qui suppose un projet, qui suppose un fondement, qui suppose une décision, etc. C'est le mode républicain traditionnel de penser la politique. Au contraire, l'autre mode, c'est bien entendu ce qu'on peut appeler le néolibéralisme, pour aller vite, et c'est un gouvernement non plus du réel, hein, c'est pas gouverner le réel, mais c'est gouverner à partir du réel. Je vais un peu nourrir cette idée-là par la suite. Gouverner à partir du réel, cela veut dire, et là on peut se raccrocher à tout ce qui a été dit précédemment sur le data mining, qu'il s'agit autant que possible et le plus possible, et je crois que ça correspond quand même bel et bien au type de gouvernement contemporain, ça veut dire un type de gouvernement qui se développe en se justifiant de par son adhérence au réel. C'est là un postulat classique du libéralisme, évidemment, hein, qui... réside dans un premier temps dans le libéralisme classique qui réside dans son dans le naturalisme qui habitait la pensée d'Adam Smith, par exemple, et qui laissait entendre que, en gros, une société, ça se gouvernait bien tout seul, et donc ça se gouvernait naturellement, c'est pour ça que j'ai parlé de naturalisme, ça se gouvernait bien tout seul, et que donc, pour une bonne part, hein, pas du tout pour tout, mais enfin, il s'agissait de ne pas trop gouverner face à cela, de se retenir de gouverner. Alors, la différence dans un cadre néolibéral semble résider en ceci, que cette base naturaliste a disparu, c'est-à-dire la société, il ne s'agit pas de partir de l'idée que naturellement la société se gouverne elle-même toute seule, dans une grande partie des situations, mais il s'agit plutôt de projeter de gouverner de telle sorte. C'est-à-dire qu'il s'agit activement de tout gouverner comme si c'était le réel lui-même qui se gouvernait. Alors, je vais donner quelques facettes de ce gouvernement à partir du réel, en ce que je les relie à la question de l'efficacité, évidemment, chaque fois, et en ce que je les relie à l'exposé fait par Antoinette juste avant. Et ce ne sont que des grosses suggestions un peu lourdaudes, vous verrez. Il me semble qu'un élément intéressant qui nous permet de décrypter notre actualité, enfin cette actualité dont a parlé Antoinette, c'est le fait que les normes, l'essentiel des normes, se pensent comme objectives. Se pensent... Alors, on peut avoir plusieurs... version de cette sorte d'objectivité, hein, cet attachement au réel des normes, elles peuvent se présenter comme des spécifications, comme des spécifications techniques, hein, c'est le propre des normes ISO par exemple. Une norme n'est qu'une spécification technique, c'est une directive 9834CE du Parlement européen et du Conseil. Une norme, c'est une spécification technique. Les normes ISO, elles nous permettent de dire ce qui. De dire comment on décrit les choses, en quelque sorte. De dire quelles sont les bonnes descriptions des choses, quelles sont les bonnes spécifications techniques qui nous permettent de penser le réel. Elles sont objectives aussi, c'est une modulation, disons, de cette objectivité des normes, de cette prétendue objectivité des normes, hein, j'y crois pas. En ce qu'elles seraient des sortes de descriptions ou d'expressions immédiates du réel. Et c'est un peu ce que nous a amené à penser tout à l'heure Antoinette, quand elle affirmait justement que, au sortir de cette double étape de la digitalisation du réel et ensuite du data mining, on se trouve face à des normes qui deviennent effectivement normatives, puisqu'activité de profilage, il y a dans un troisième temps. Hein, donc ça agit sur les comportements, ça gouverne bel et bien. Mais la force de ce processus-là, ou du moins la force que ce processus veut mettre en avant, c'est le fait justement d'apparaître comme étant immédiatement extrait du réel. Hein. Enfin, extrait, puisque c'est une des manières qu'on a de définir le data mining. Et Antoinette a insisté sur le fait que justement le propre de cette digitalisation du monde à laquelle on assiste, ou la force de ce mouvement-là, c'est de pouvoir donner lieu à des normes, à des actions normatives qui reposent sur cette espèce d'ensemble de données non triées, qui ne supposent pas d'hypothèses, qui excluent les préjugés, etc. Il y a je mets tout ça entre guillemets, évidemment, la question n'est pas de savoir si je crois à cette objectivité ou pas. Il me semble que les normes se pensent comme objectives désormais. Et que donc la force du gouvernement, la puissance intrinsèque du mode de gouvernement face auquel on se trouve, réside dans cette adhérence, dans cet attachement au réel. C'est une manière d'expliquer cette expression d'un gouvernement à partir du réel, hein, dans sa différence par rapport à gouverner le réel. Si je dois me raccrocher à la discussion qu'on a eue sur la statistique tout à l'heure, hein, quand je distinguais la vieille statistique des nouvelles pratiques statistiques en disant que la vieille statistique supposait des hypothèses, supposait des idées, donc, etc., qui vont être vérifiées en appelant au réel, gouverner le réel présuppose lui aussi des hypothèses, présuppose qu'on a des idées, qu'on fait des propositions, etc. Là où, me semble-t-il, ce gouvernement que j'essaye de décrire sur laquelle Antoinette a amené des éléments tout à l'heure, on se trouve face à un mode de gouvernement qui, en apparence, fonctionne en étant absolument dépourvu de propositions, dépourvu d'hypothèses. Alors, ça apparaît évidemment profondément trivial. Si ce que je viens de dire équivaut à dire qu'on prescrit ce qui est. Prescrire ce qui est, ou prescrire même au plus près de ce qui est, c'est profondément trivial. Ce qui est en quelque sorte bien la preuve que cet attachement au réel ou cette adhérence au réel dont Antoinette a parlé n'est pas du tout une neutralité. Il ne s'agit pas de croire qu'effectivement il n'y a pas un certain découpage absolument non neutre qui est produit dans ce type de processus, hein. Donc, et qu'il n'y a pas des finalités qui justifient tout ça, et que l'argent que la Commission européenne met pour financer ce genre de truc est de l'argent neutre, etc. Bien entendu, tout cela n'est pas neutre, mais il n'empêche que la force de ce type de gouvernement est de se profiler comme étant, le mot est mal choisi, de se présenter comme étant fondamentalement neutre, fondamentalement dépourvu de préjugés, fondamentalement dépourvu d'hypothèses. Et effectivement, cette trivialité apparente de ce type de gouvernement répond son fantasme, à savoir l'idéal d'un gouvernement qui deviendrait petit à petit invisible, tellement il adhère et tellement il s'inscrit dans le réel. Et là, je cite un extrait d'une autre directive de la Commission. C'est superbe, c'est presque l'évangile. La plupart des biens et des services dont nous disposons aujourd'hui sont soumis à des normes, ce dont on ne se rend généralement pas compte. Telles des forces invisibles, les normes veillent au bon ordre des choses. Alors, on voit bien l'absurdité ou le registre fantasmatique face auquel on se trouve, hein. On oscille entre l'absurdité et le fantasme, on oscille entre des injonctions parfaitement inutiles, parfaitement triviales, puisqu'il s'agirait de nous enjoindre à faire ce qui est, ou des fantasmes absolus, c'est-à-dire des normes qui seraient présentes à même le réel, qui rayonneraient comme ça partout dans le réel. Mais il me semble que tout ça participe de cette espèce de puissance qui justifie la norme et qui a été décrite précédemment, à savoir l'idée que, sans y croire du tout, bien entendu, la norme se pense comme ce qui doit être le plus objectif possible. Et là, il y a quelque chose de neuf, me semble-t-il. Alors, deuxième facette, rejoint des travaux que je fais avec Gaël et qu'on a déjà développé l'année passée. Il me semble que l'outil central de ce type de gouvernement, c'est le rapport. Que de nouveau, ça permet de justifier cette adhérence au réel, hein, cette idée d'un gouvernement à partir du réel dont je parlais précédemment. C'est quoi le rapport ? C'est le fait de rapporter ses activités, hein, de se confesser, c'est-à-dire c'est le fait de dire son réel, de dire sa réalité, de dire ses activités pour qu'on puisse gouverner à partir de ses activités et non plus gouverner les activités elles-mêmes. Donc le rapport, c'est un outil privilégié puisqu'il permet de gouverner directement à partir du réel sans devoir prétendre gouverner le réel. Et on sait bien combien, et ce sera sans doute creusé par la suite avec Florence, on sait bien combien le rapport est évidemment un élément essentiel des activités, de ces activités centrales dans nos universités, que sont l'évaluation, le classement, etc. Hein, sans rapport, on ne peut rien faire. Donc il me semble que le rapport devrait vraiment être travaillé comme étant... alors je vais de nouveau employer des formules paradoxales, comme étant en quelque sorte l'agent de l'immanence, hein, le moyen de l'immédiateté. Le rapport, c'est ce qui permet de calquer le réel au point qu'on puisse gouverner, parce que je maintiens que tout ceci, c'est du vrai gouvernement, hein, ce n'est pas du tout... je ne suis pas en train de dire on n'est plus face à du gouvernement, ça se gouverne tout seul. C'est tout le contraire que je veux dire. Je trouve que ça gouverne fameusement, mais ça gouverne comme si comme s'il suffisait de répéter le réel pour gouverner. Alors, évidemment, le rapport est le moyen, en tant qu'il serait un compte-rendu des activités, hein, le rapport est le moyen parfait de gouverner à partir de ce qui est. À partir du réel, à partir de nos activités. Alors, si j'ai dit que ça se situait dans le fil de l'exposé qu'on avait fait Gaël et moi l'année passée à propos de sur ce sujet-là, c'était parce qu'on avait parlé de la responsabilité sociale de l'entreprise et comme on l'avait expliqué, les entreprises sont relativement rétives, disons pour le moins, à avoir développé un type de responsabilité qui devrait se comprendre comme contraignante, hein, comme appuyée par des sanctions, etc., etc. Et donc, si on analyse l'essentiel de cette nouvelle normativité propre au monde de l'entreprise, on peut se rendre compte combien, finalement, même pas son moyen central, mais son cœur réside dans le rapport. Je veux dire, la seule chose qu'on est parvenu faire, finalement, au monde de l'entreprise, enfin, ou une des seules choses, c'est aller forcer à écrire des rapports. Faites des rapports. Et c'est déjà quelque chose. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est rien. Au contraire, c'est déjà, je ne dis pas une victoire, mais c'est déjà quelque chose. Alors, troisième facette, hein, donc le premier, c'était les normes sont pensées ou trouvent leur force dans leur objectivité, avec les fantasmes et les absurdités auxquelles ça mène. Le deuxième, c'était l'outil privilégié qu'est le rapport. Troisième aspect de ce gouvernement parfaitement efficace. Si la norme est elle-même... l'enjeu principal de la politique, l'objet de la réussite, cela signifie que le cœur de la politique, que ce qu'est la politique, ça devient une guerre des normes, un marché de la norme, si vous voulez. L'enjeu normatif central, l'enjeu politique central n'est plus l'émergence de la norme, comment on produit la norme, quelle est sa légitimité, quel est son contenu. L'enjeu de la politique, c'est une guerre des normes, une opposition. C'est quelle norme va gagner parmi toutes les normes qui se présentent à nous. Toutes ces normes qui expliquent, tous ces rapports qui expliquent le réel, tous ces critères qui nous permettent de dire le réel, etc. Et donc, notre réalité politique serait une guerre des normes. Alors, ce n'est pas... parce que... c'est ici qu'on croit pouvoir éventuellement sauver une certaine conflictualité politique. Je ne crois pas du tout, évidemment, que cette conflictualité, cette guerre des normes, soit une guerre démocratique, dans le sens qu'on soit face à des autorités, à des acteurs différents qui s'opposent dans une sphère publique les uns aux autres en mettant leurs normes, en créant de la rivalité entre leurs normes. Je crois que cette rivalité est fondamentalement technique, hein, un peu comme celle sans doute que Antoinette rencontre quand elle fréquente les puissants de ce monde, et qu'elle est donc fondamentalement non démocratique. Mais en tout cas, il y a un espace de conflictualité clair qui est celui, mais qui porte maintenant sur la norme elle-même. Gouverner donc revient, et là c'est aussi une inversion qui a été ébauchée par Antoinette, gouverner revient à gouverner les normes, à produire des convergences entre les normes, à réguler les normes elles-mêmes. Et une nouvelle fois, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance du rapport. Hein. On peut voir toute une certaine scène politique qui consiste à agiter un rapport contre un autre rapport, à développer des conflits au sujet des critères qui sont déployés dans tel ou tel rapport. On peut voir des guerres de classement, des guerres des méthodes d'évaluation, des guerres entre des acteurs de la divulgation, ces acteurs qui définissent donc les techniques d'évaluation. Alors on a des acteurs qui sont devenus très très puissants, comme les GRI, qui sont les Global Reporting Initiative, qui est une initiative parfaitement privée, qui propose toute une série de méthodes d'évaluation, de méthodes de reporting. Et bien là, donc on a, semble-t-il, dans cette guerre des normes qui apparaît, un acteur qui devient puissant. On peut voir que telle ou telle norme prend de la place sur telle autre, etc. Donc voilà, le cœur du politique serait devenu désormais une sorte de guerre des normes. J'aurais tendance, mais là je le dis vraiment très prudemment, à renverser les idées selon lesquelles on se trouve face à des situations de conflit au sujet des normes parce que nous sommes dans une situation de mondialisation, parce que nous sommes dans une situation de politique européenne ou de construction d'une politique fédérale européenne, etc., ou parce que nous sommes face à la construction d'institutions internationales. J'aurais tendance, mais je reconnais que c'est un peu de la provocation, à dire le contraire, à dire que si l'Europe, les institutions internationales, etc., apparaissent maintenant, c'est dans la mesure où elles sont justement des outils qui nous permettent d'agrandir le marché ou d'agrandir la conflictualité aux normes elles-mêmes. Mais ça, c'est un peu une figure de style. Alors, si l'efficacité est autoréférée, comme je l'ai dit dans un premier temps, c'est-à-dire si l'efficacité est finalement l'efficacité de la normativité elle-même, de la norme elle-même, c'est justement dans la mesure où cette guerre des normes a lieu, et où cette guerre des normes est l'enjeu central de la politique, hein. La norme efficace, c'est celle qui se maintient, c'est celle qui fédère, c'est celle qui gagne la guerre des normes. Et c'est à ce titre qu'on voit bien que l'efficacité ne porte pas du tout sur une réalité extérieure à la norme, mais porte sur la norme elle-même. C'est l'efficacité de la norme elle-même qui compte. Une norme efficace est une norme qui produit une convergence normative qui s'impose dans un conflit de normes. C'est une norme qui est suivie, etc. Avec toutes les ressources statistiques dont a parlé Antoinette précédemment, justement. Et c'est là que je vais dans le sens du renversement qu'elle a signalé. À savoir le fait que traditionnellement et spontanément, l'idée qu'on se fait de la normativité, de la discipline, c'est l'idée selon laquelle il s'agit de produire un effet de norme sur les corps, sur les comportements. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est que la norme est ce qui rend docile les corps. Et il me semble que ce que je viens d'ajouter au sujet d'une guerre des normes va tout à fait dans le sens de l'inversion qu'elle annonçait, hein, dans la mesure où maintenant il s'agit plutôt de penser la norme comme le résultat du processus normatif. Hein. Elle avait signalé tout à l'heure que le profilage donnait lieu à... Enfin, que la description qu'elle avait faite du profilage donnait lieu au fait que les corps, finalement, produisaient des normes dociles. Il ne s'agissait plus de penser la norme telle qu'elle rend les corps dociles, mais au contraire de penser, c'est ça tout le processus statistique, de penser des corps qui rendent les normes dociles. Et donc je vais tout à fait dans ce sens, avec cette idée d'une guerre des normes, dans la mesure où, où le résultat du processus normatif qui est écrit, c'est bel et bien la norme. Le point ultime, c'est la norme. Alors, encore 5 minutes... Ce ne sont que des, maintenant vraiment que des suggestions, que des pistes. Il me semble que là où ça grippe tout ça, en fait ça grippe sûrement à beaucoup d'endroits, mais un des points où ça grippe, c'est dans le fait que le réel concerné, c'est le langage. évidemment. C'est-à-dire le réel à partir duquel ça gouverne, c'est du langage. Le réel qui doit être gouverné, finalement, ou ce qui est régulé, c'est le langage lui-même, etc. Alors ça me semble bel et bien désigner une limite, peut-être la principale limite qu'on peut opposer, par exemple, à la pensée de Hayek, hein. Dans la mesure où il y a ce qui apparaît, limite à la pensée de Hayek, et surtout la preuve qu'il s'agit bel et bien d'une forme de gouvernement et pas du tout d'un phénomène de pure autorégulation. Puisque ce qui apparaît, c'est une dépendance totale du processus par rapport à la communication et par rapport au langage. Vous savez que dans la perspective, enfin un axiome qu'on peut prendre en considération de la pensée de la pensée néolibérale ou de la pensée d'Hayek, c'est le fait que la circulation de l'information est quelque part inhérente au marché libéral. Hein. Quand je dis que c'est un axiome, c'est dans la mesure où on peut dire que les deux vont de pair. Information, circulation de la communication et marché vont de pair. Le mur de Berlin ne pouvait que s'écrouler parce que justement, c'est ça la force du marché libre, c'est qu'en même temps il brasse de l'information, etc. Et ceux qui étaient de l'autre côté du mur ne pouvaient pas résister à cette circulation de l'information. Or, ce qui apparaît, me semble-t-il, dans le système que je viens dans le système normatif que je viens de décrire, c'est que malgré tout, la communication réclame des règles. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme on l'avait montré avec Gaël l'année passée à propos de la RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, on peut tout laisser faire, enfin, c'est comme ça que ça veut gouverner, mais il faut bien quelques injonctions fortes pour produire du rapport. Il faut bien un peu structurer le rapport, etc. Donc il me semble que dans le côté... omniprésent du langage, le fait que ce gouvernement ne se conçoit que dans la mesure où la réalité à partir de laquelle on gouverne, c'est du langage, et où la réalité qui est gouvernée ou qui est régulée, c'est du langage, il y a ce qui pourrait apparaître, c'est une limite. Mais ça, c'est une simple suggestion. Autre chose sur laquelle je veux revenir pour faire le lien avec mon introduction... on se trouve ainsi face à un processus normatif fondamentalement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas tourné vers quelque chose, hein, qui ne doit pas être pesé en fonction de ses résultats, en fonction de ses finalités, etc. Alors, effectivement, ça nous éloigne très fort du finalisme ou du conséquentialisme par lequel j'avais commencé, hein, qui réclame qu'il y ait des projets, qui réclame qu'il y ait une thèse sur des résultats, qui peuvent être pesés ensuite en fonction des moyens qui ont été investis, etc. On n'est pas là-dedans, mais on est dans un processus voisin, me semble-t-il, à savoir un processus tendanciel, ou l'idée d'une amélioration continue. Ça m'a l'air d'être essentiel à ce type de conception normative. C'est censé s'améliorer tout le temps. Alors, dernier point... et qui me permet simplement de faire un lien avec ce qui a été dit par Monsieur Le Texier, j'ai oublié son prénom, Thibault Le Texier, deux mots, vraiment, à propos de ce qu'on répète souvent, qui est que le point de vue un point de vue managérial désigne ou repose sur une rationalité fondamentalement limitée, ce qui la justifie d'habitude. Hein, la force, une partie de la force de l'injonction d'un manager ou d'un ingénieur, c'est de dire « Écoutez, je ne prétends pas gouverner le réel. Je prétends simplement vous dire comment il est, etc. » Alors, ce que j'essaye de faire, ça c'est plutôt pour dévoiler une des cartes, c'est de considérer que cette retenue, ce caractère limité de la rationalité qui est mise en place, est justement un des enjeux ou une des sources de la puissance de ce type de gouvernement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la mesure où un tel gouvernement se contente d'exprimer le réel qu'il gouverne véritablement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne gouverne pas. Voilà, et j'en arrête avec ma série d'intuitions.